Nathalie Janson, bonjour.
Bonjour.
Professeur à Neoma Business School, Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Professeur à Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Fipeco.fr et vous avez donc publié sur Fipeco cette dernière commentaire d'actualité, c'est comme ça que ça s'appelle, qui s'intitule La revue des dépenses publiques. Alors, il y a tout l'historique. Mai 68, voilà. On lance l'expérimentation pour une méthode tendant à la rationalisation des choix budgétaires et au contrôle des résultats de l'action administrative par des études d'analyse de système et de coût-efficacité. La formule n'est pas très marketing, mais ça a commencé il y a un petit moment. C'est un RCB, voilà. C'est inspiré d'une pratique américaine. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme, Benjamin Coria, de notre ministre Bruno Le Maire, car nous n'avons que 125 milliards d'euros de déficit public, là où on craignait 132 milliards, que 2950 milliards d'euros de dette, là où on pensait passer les 3000 milliards.
Oui, on a déjà eu cette discussion.
Vous avez vu ici. La manière dont je vous pose la question est déjà un peu biaisée, évidemment.
J'ai eu cette discussion ici, moi, ça me laisse de glace.
Quoi, toute cette dette, ça vous émeut pas?
Ça me laisse de glace.
Tout? Le déficit, tout?
Bah, les problèmes existent. Bah. C'est la manière dont ils sont présentés et la série des annonces. Sur demain, on va pas raser gratis, mais on va baisser tous les déficits et en plus sans toucher aux impôts. Bon.
Ah, ça c'est ma troisième question, celle-là. Voilà, Mettez-vous plus près du micro, Benjamin. Donc, il est trop loin.
Voilà. Donc je vais pas en dire davantage. D'accord. Je vais laisser. Il y a quelqu'un qui connaît la question bien mieux que moi. Éventuellement, je réagirai.
Oui, réagirai. Mais quand vous dites, ça me laisse de glace. 125 milliards d'euros de déficit public.
Non, mais écoutez, je vais vous dire pourquoi ça me laisse de glace.
Moi, ça me laisse pas totalement de glace. Même si je pense que l'opinion s'en moque.
Mais pourquoi, je vais vous dire pourquoi ça me laisse de glace. Mais on va rentrer dans la discussion technique. Parce que, alors qu'on était déjà sur une pente un peu sérieuse hein, en matière d'augmentation de la dette et de déficit public... Oui. Pendant la crise du Covid, on a déversé une marée d'argent et de manière indifférenciée. Bon, ensuite, on se retrouve, je dis bien, de manière indifférenciée. On a recommencé ensuite avec la crise de l'énergie. Bien. Dans chacun des cas, bien sûr, il fallait faire des choses. D'accord. Mais ce qui a été fait a creusé dans des proportions. Bon, dans le même temps, on se refuse absolument à toucher... à toutes les niches fiscales, à tous les profits exceptionnels, faramineux, indécents. Je garde le sujet pour tout à l'heure. Là où on triche, au minimum, voire davantage, avec la légalité sur les dividendes, sur les koum-koum,
etc. C'est un autre sujet que...
Non, c'est le même.
C'est le
même.
Ah ben non,
c'est le même.
Vous pouvez pas mettre
l'État...
la fraude fiscale au même
mais
titre
si,
que les profits.
Parce que l'État, on va en parler tout à l'heure dans un instant, l'État se prive des recettes absolument normales dont il devrait bénéficier. Sur les koum-koum, on en parlera tout à l'heure.
Oui,
hein.
D'accord.
Il y a eu une législation depuis 2018 qui a été amoindrie et détruite par les députés macronistes pour permettre aux banques de pouvoir continuer. Si vous voulez, je vais vous donner toutes les citations et toutes les références. Et ensuite, on dit, ah là là, on va lutter contre les déficits. Je veux dire, c'est du grand guignol. Alors, c'est du grand guignol.
Pour le parquet national financier, c'est de la fraude. Hein. C'est pas une zone grise tolérable, visiblement.
Ben, bien sûr.
De bon, mais...
Attendez, c'est de la fraude qui est possible parce que en 2018, la législation qui avait été prise a été annulée par les députés macronistes. Bon, ce qui a permis de pouvoir continuer alors qu'il y avait déjà 30 milliards de dépensés. Si vous voulez, je vous donne toutes les références du monde et toutes les références de COMEX. C'est vérifiable. Confiance. Je demande aux fact-checkers de vérifier tout ça.
Oh, mais simplement, je veux bien.
C'est pour dire que dans ces conditions, dire ah on a des déficits, machin, d'accord, etc. On va serrer la vis. C'est presque comique. Vous voyez, c'est comique.
Super profit, fraude fiscale. Bon, est-ce que vous vous réjouissez, François Eckhall?
Bah, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un déficit public correct, qui est inférieur à celui qui était prévu. Bon.
C'est mieux de faire 0,6 de croissance que 0,5.
Voilà. Bon. Voilà.
Oui.
Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade.
Après 4,7% du PIB, ça reste quand même élevé, d'une part. Et puis ensuite, entre 4,7 et la prévision qui était de 5, on est dans l'intervalle de confiance des prévisions, hein, en
oui,
réalité.
Donc
on est quasiment dans l'épaisseur du trait. Ce dont ne se glorifie pas le maire vis-à-vis de ses électeurs. C'est la raison pour laquelle on a fait ça, et ça renvoie d'ailleurs à ce qu'il vient d'être dire. La raison pour laquelle on a un déficit inférieur à ce qui était prévu, c'est qu'on a eu une très forte croissance des recettes fiscales et sociales. Et nous avons battu un record, on ne dit pas encore, mais ça commence à se voir dans les médias, on a battu un record en 2022. Le record du taux des prélèvements obligatoires, 45,3%. La France n'avait jamais atteint ce niveau dans toute l'histoire de cette série de l'INSEE. Donc, et c'est quand même... Les journalistes commencent à se poser des questions. On bat le record du taux des prélèvements obligatoires, alors que par ailleurs, on dit qu'on a baissé les impôts.
Oui, mais alors...
Donc, la recette
est supérieure à ce qui était attendu, mais ça ne veut pas dire que les taux d'imposition ont remonté.
Il y a bien eu des baisses d'impôts en 2022. On a baissé, il y a eu la fin de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, il y a eu une nouvelle tranche de baisse de la taxe d'habitation, et puis il y a eu la redevance aussi. Mmh. Bon, après, il y a eu aussi des mouvements de hausse et de baisse, je dirais, temporaires.
Il y a eu des impôts de production.
Il y a une baisse des taxes sur la consommation d'électricité, supposée être temporaire. Et en face, il y a eu une hausse des impôts sur les producteurs d'énergie, supposée aussi être temporaire. Au total, c'est vrai qu'on a quand même eu 4-5 milliards d'euros de baisse d'impôts. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'assiette des prélèvements obligatoires a fortement augmenté.
Avec l'inflation.
L'inflation a dopé les recettes de TVA.
Ce qui est quand même assez curieux quand même dans cette histoire, ce qui mérite des explications, c'est que le produit des prélèvements obligatoires a augmenté spontanément beaucoup plus vite que le PIB lui-même en valeur. Alors que, en moyenne, sur long terme, en fait, les prélèvements obligatoires à législation constante augmentent à peu près comme le PIB, un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Là, ils ont augmenté beaucoup plus. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté beaucoup plus ? Peut trouver des raisons. En effet, la consommation en valeur a augmenté plus vite que le PIB, parce que les prix à la consommation
ont fortement
augmenté. Donc la TVA a été dopée. Les bénéfices des entreprises ont fortement augmenté. L'impôt sur les sociétés a explosé.
La recette d'IS a été en
2022.
Supérieure.
Donc il y a des tas de facteurs de ce genre il va falloir que je regarde de plus près, parce que les chiffres ne sont sortis que hier, mais on a battu ce record. Je pense qu'on va en parler parce que vis-à-vis après dans le débat, est-ce qu'il faut monter, baisser les impôts, etc. Voilà.
Surtout que les profits, effectivement, qu'ils soient super ou pas super, l'impôt sur les sociétés est là normalement pour s'emparer d'une partie.
On en a récupéré beaucoup.
C'est intéressant de rappeler qu'effectivement, on peut avoir des prélèvements ou des dépenses par rapport au PIB qui montent ou qui baissent sans que les taux d'imposition ne l'aient changé. Simplement, je peux avoir par exemple, une dette qui augmente un peu, mais si tout d'un coup je fais 6% de croissance, mon pourcentage de dette par rapport au PIB aura pu baisser.
Mais vous allez avoir un débat avec des gens qui vont vous expliquer. Moi, je ne le crois pas, mais il y a des gens qui vont vous expliquer quand on baisse le taux des impôts, quelque part parce qu'on est au sommet de la courbe de l'affaire, etc. Oui. Quand on baisse le taux des impôts, l'assiette, le produit de l'impôt augmente. On n'en est pas encore là, je pense. On en est loin. Mais vous allez avoir ce débat.
Mais Xavier Jaravel, l'économiste qui vient ici, notamment,
on en a beaucoup parlé, en effet.
Oui, il a essayé de compiler les différents travaux qui existent pour savoir quel est le niveau d'impôt au-delà duquel toute hausse se traduit par une baisse de recettes.
Non, mais son article tombe très bien. Il tombe la veille du jour où on bat le record en matière de PO.
Et il considère donc qu'on y est en termes d'hier. En mettant tout, l'IR, la TVA, en termes de fiscalité sur les ménages, en mettant l'IR, la TVA, les cotisations. Réaction Nathalie Janson. Après, je voudrais que François nous traduise sa note.
Non, juste une petite réaction. Effectivement, c'est un sujet qui traîne depuis longtemps, cette histoire d'impôts, et ça rejoint de toute façon aussi le commentaire de Benjamin juste avant. Je pense qu'il y a effectivement un sujet, on ne sera sans doute pas d'accord sur ce qu'il faut faire, mais on a bien un problème dans un système en fait, où il y a des impôts qui sont relativement, des prélèvements qui sont relativement élevés. Effectivement, on a une culture de la niche, c'est-à-dire pour essayer de donner de l'air, et du coup, on se retrouve avec un système où finalement, on va avoir des montages douteux. Donc, En effet, la plupart, enfin, il y a des économistes qui recommandent qu'on simplifie, qu'on ait un impôt beaucoup plus bas pour qu'effectivement...
Mais moins de niches.
Oui, et effectivement, moins de niches.
Mais voilà, c'est très difficile de rationaliser. Parce que vous avez des niches dans des quantités d'activités. Si vous les supprimez, il y a des gens pour qui ce sera indolore et d'autres pour qui ce sera mortifère.
Et donc, c'est un sujet qu'on n'a jamais rouvert. Mais pourtant, c'est un sujet qui mérite, puisqu'en France, on a quand même la grande culture de la niche pour donner de l'air à notre système fiscal. Et en fait, le problème, c'est qu'on fait des portes d'entrée à tous les montages possibles, y compris ceux qu'on a mentionnés pour les banques. C'est-à-dire qu'on va attaquer de toutes parts pour essayer de voir comment on peut contourner ou mettre à profit le système existant. Donc c'est vrai que beaucoup disent, pour arrêter ça, il faut juste faire un taux beaucoup plus bas, unique, et on voit. Et c'est inaudible pour un pays qui aime l'impôt progressif.
J'ai regardé cette histoire parce que on a effectivement à peu près... Quand on prend tout ce qui entoure les entreprises, on est à 140 milliards d'euros entre le crédit d'impôt, recherche et quoi. Enfin, et on se dit, baissons les impôts et baissons les niches d'autant pour avoir un truc beaucoup plus clair. Et si par exemple, vous coupez les niches qui profitent aux services à la personne, l'industrie s'en moque, mais les services à la personne sont morts. Exactement. Parce que dès qu'on a réduit les niches fiscales sur les services à la personne, on a vu le travail au noir exploser. La liste des perdants gagnants est telle.
Il faudrait surtout baisser. Si vous le baissez en même temps, ça va mieux. Oui. Mais si effectivement vous baissez pas, ça passera pas.
Benjamin Cordier, vous vouliez réagir.
Non. Pour dire qu'il y a niche et niche et que les services à la personne, c'est une chose. Oui. Et on voit bien son utilité. Personnellement, moi, je serais pas pour les bouger beaucoup.
On a essayé, François, et
on aurait une explosion du travail noir. C'était juste une boutade. C'était pour dire il y a niche et niche. Si on s'y met, il y a quand même des marges, même si on touche pas à tout. Et je souscris à ce qui a été dit. Un impôt plus simple, éventuellement plus bas, mais plus juste et beaucoup plus étendu. Rappeler un mot bien connu, que derrière les niches, il y a toujours des chiens qui mordent. Les différents lobbies disposent pas des mêmes chiens. Voilà.
On est d'accord.
Ça crée du travail en plus. Les fiscalistes, ils sont contents.
Jean-Marc Daniel avait commis un papier dans les Échos justement sur le rapport entre les prélèvements obligatoires sur les entreprises et les niches. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu aberrant. Mais quand vous arrivez avec un mikado tel, vous pouvez plus bouger une seule des tiges sans faire tout bouger. Donc c'est, je sais pas. On pourra ouvrir le débat avec François Eckhall, savoir si on pourrait faire un grand write-off d'un côté, une grande baisse d'impôt de l'autre. Moi, j'y crois pas.
Non, c'est pas les mêmes.
L'histoire, c'est merveilleux. Donc 68, j'ai rappelé, circulaire Rocard, février 89, la LOLF, puis après on a les audits de modernisation en 2005, RGPP en 2007, la MAP, c'est sous François Hollande, on est en 2012, la loi de programmation des finances publiques de décembre 2014 qui impose une annexe au projet de loi de finances avec une liste des revues de dépenses, en octobre 2017, un programme pour l'action publique 2022, finalement CAP 2022 ne publiera jamais ses résultats.
Incroyable.
Remarquez, on arrive à rire.
Vous comprenez pourquoi je souris quand j'entends les déclarations.
Mais c'est pas pour ça que ça doit. Enfin, qu'on doit être complètement insensible à des montants pareils.
Non, je suis pas insensible. On va venir à la discussion. Dans un premier temps, il faut sourire.
Point B, les conditions du succès des revues de dépenses dans la note de Fipeco que je vous invite à lire toutes, évidemment. Moi, je suis très très gourmand de savoir.
C'est le même sujet que pour les dépenses fiscales. D'ailleurs, dans certaines de ces procédures de revue,
François, c'est dépenses fiscales et dépenses publiques. C'est super important. Je taille une niche, j'inscris ça en économie de dépenses fiscales. Après, pour celui qui n'a plus la niche, c'est une hausse d'impôt. Baisse de dépenses publiques.
C'est une hausse d'impôt quand on supprime une niche.
Et donc, c'est passionnant, ça.
Économiquement, niche. D'ailleurs, il y a une forme de niche fiscale qui sont les crédits d'impôt, qui économiquement et comptablement, d'ailleurs, sont totalement équivalents à des subventions. C'est rattaché à un impôt, mais c'est une subvention. Et c'est dans les dépenses publiques pour l'INSEE. Donc, pourquoi ? Donc, effectivement, des revues de dépenses publiques. On peut même remonter à l'entre-deux-guerres. Il y avait des comités de la hache, etc. Tout ça, il y a eu notamment, et puis on peut y mettre ce que j'y mets aussi, la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, comme tu l'as dit, 2001, qui avait été vue à l'époque comme la matrice.
Mais moi, je le voyais comme une révolution.
Une révolution,
etc. J'y ai cru.
De ce point de vue-là, donc on allait gérer par la performance, avec des objectifs, des moyens, des tas d'indicateurs, etc. Ça a complètement échoué, hein, de ce point de vue-là.
Donc, mais vous savez, enfin, c'est tous les ans, en fait, le Parlement a la possibilité de modifier l'objectif de l'année suivante.
Oui, bien sûr.
Bah oui, mais ça, vous fixez pas un objectif à 5 ans si vous pouvez l'amender tous les ans.
Ça ne sert à rien. En fait, en fait, le budget n'est pas du tout voté sur là-dessus. Donc, il y a chaque année 20 000 pages de rapports, de performance. Voilà, mais enfin, c'est beaucoup d'informations. C'est très utile. Ça donne plein d'informations, mais ça ne sert pas à budgéter, en fait, à allouer les crédits. Donc, alors, pourquoi est-ce que ça marche pas? Je pense qu'il y a fondamentalement quand même un problème de volonté politique. Ces revues de dépenses, initialement, enfin dans la RC, enfin beaucoup avaient pour objectif, et on cherche à en attendre, à nouveau d'ailleurs, on cherche à en attendre des économies budgétaires. Mais en fait, on ne l'a jamais totalement assumé. Je pense que c'est ça le problème.
Et donc, il l'assume, Bruno Le Maire, il le répète tous les jours.
Il l'assume, mais c'est comme la MAP, on le dit aussi. Aussitôt, ces revues de dépenses, elles ont pour objectif d'améliorer la qualité des services publics. Ce qui est très bien. Il faut en effet améliorer, personne ne peut s'y opposer. Ou améliorer les conditions de travail des agents. C'est très bien, personne ne peut s'y opposer. Mais en fait, c'est exactement comme pour les dépenses fiscales. Réduire une dépense budgétaire, une dépense budgétaire, ça va, c'est des euros qui vont dans la poche de quelqu'un, que ce soit un ménage ou une entreprise. Donc en fait, c'est extrêmement difficile. Et s'il n'y a pas la volonté politique de le faire, et en fait, quand on regarde, par exemple, la MAP ou Action publique, on voit que l'objectif d'économie budgétaire, c'est tout juste si on ose en parler à un moment. Dans les rapports de la mission, dans les rapports de la MAP ou du comité Action publique 2022, on mettait en avant partout l'amélioration de la qualité des services, ce qui est très bien, mais l'objectif d'économie budgétaire, c'est tout juste si on osait prononcer le mot.
Donc, l'une des conditions du succès, François Eckhall, c'est qu'il y ait un objectif.
Il y a un objectif et une volonté politique. Voilà, la seule.
Mais la volonté politique, elle est en apparence, elle est toujours là.
Non, parce que culturellement,
elle n'est pas là.
Elle n'y est pas.
Mais je suis d'accord.
La seule revue de dépenses qui a eu un effet tangible, c'est la RGPP de Nicolas Sarkozy, parce qu'effectivement, elle a permis de supprimer, on pourra en discuter, mais enfin, voilà, elle a permis de supprimer 130 000 emplois dans la fonction publique d'État. Parce qu'il a été parti du principe qu'il y ait non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux. En fait, ça n'a pas été appliqué aussi mécaniquement. Voilà. Mais au total, on a quand même eu ce résultat. Mais c'est le seul exemple parce qu'il y a eu il y avait une volonté.
Il y avait un objectif chiffré
et une volonté d'aller jusqu'au bout.
Oui.
Dans tous les autres cas, cette volonté, elle n'existait pas, en fait. Alors après, une fois qu'on a la volonté, on peut débattre, parce que le débat sur est-ce qu'il faut un processus centralisé comme l'était la RGPP ou totalement décentralisé comme l'était la MAP, la modernisation de l'action publique de Hollande. Factuellement, ça a plutôt mieux marché quand c'était plutôt centralisé, en fait. Même si on peut dire aussi que la RGPP s'est mêlée de choses qui ne regardaient pas un comité élyséen. Les horaires d'ouverture de la poste, ça devrait être décidé à un niveau local, pas à l'Élysée. Voilà. Donc il y a un juste milieu à trouver entre centralisation et décentralisation. Ensuite, on a toujours dit, c'est normal, il faut mieux que ces économies budgétaires, elles reposent sur des évaluations de politique publique, bien sûr. Personne ne dira le contraire. Mais je dis aussi, en France, il faudrait faire beaucoup plus d'évaluations, mais il faut aussi ne pas se faire d'illusions. Les évaluations de politique publique, c'est compliqué, en fait. Ça nécessite d'avoir des données, du recul, et le résultat, c'est jamais noir ou blanc. C'est jamais votre politique, elle est bonne ou elle est pas bonne. C'est quelque chose de gris, dire ça marche plus ou moins bien, ça. Ouais. Donc, faut pas non plus trop en attendre. C'est comme pour la concertation. Est-ce qu'il faut plus ou moins de concertation? Oui, il faut toujours de la concertation.
À un moment donné, il faut décider.
Voilà. C'est des idées de bon sens, hein, finalement.
C'est à découvrir sur fipeco.fr les conditions de succès des revues de dépenses publiques. Donc, un objectif budgétaire assumé politiquement.
C'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça ne marchera pas.
Sans doute une solution peut-être centralisée. Et puis avoir des évaluations de politique publique.
Bon, vous dites un peu la même chose que moi.
On va marquer une pause. Dans un instant.
Voilà.
Benjamin Corian n'a pas de cœur pour les déficits.